Oui, un blanc. Oui, un peu de silence dans cette émission. Parfois, on nous dit qu'on parle trop.
Tout le
Allez,
temps.
on va faire l'agenda vite fait, et puis nous allons accueillir toute la clique de nos invités qui vont faire avec nous la rubrique autour du paysage sur l'imposture. Ils auront beaucoup de choses à nous dire par rapport à ça. Donc cet agenda, allez vite fait, c'est parti. C'est la fin de Filmer à tout prix, ruez-vous dans les salles. Il reste encore quelques très très bons documentaires à aller voir, notamment à l'Espace Mag, Mafrouza. Donc on vous le conseille vivement. Donc, mais dépêchez-vous parce que c'est tous les mardis, mais il n'y a plus des semaines non plus. Alors hier, il y avait le vernissage de l'exposition Ombre croisée, on en a parlé, donc Jason Vellman à la librairie Multi-BD. Le 25 du 11, donc ça c'est vendredi, il y a un concert du label Vlek à la Maison des Musiques, un concert gratuit avec Scaliva, Squeaky Lobster, dont on devait vous passer un morceau. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais on se rattrapera le mois prochain, donc on le passera le mois prochain, mais le concert, lui, c'est bien vendredi. Alors, le 1er décembre, c'est-à-dire jeudi prochain, il y a le vernissage de l'exposition Bonhomme Daniel. Ça, c'est au Cinéma Nova. Il y aura aussi un concert ce soir-là. Il y aura plusieurs choses. Et aussi, il sera projeté jusqu'à la mi-décembre, plus ou moins, un film qui a l'air très très intéressant au Nova, Les Murmures du Vent, ça s'appelle. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Brecht Evens et Olive Bouguer, on en a parlé. Ils seront en dédicace à Bruxelles, à la librairie Multi-BD aussi. Le 8 décembre, c'est un jeudi dans 2 semaines. Commence ce jour-là aussi une exposition Charles Burns. C'est assez rare que pour pouvoir être cité. C'est à Louvain, donc c'est vraiment pas loin de Bruxelles. Donc voilà, ça c'est jusqu'au 11 mars.
Monté par Charles Burns himself et Ilke Christians.
Voilà,
peut-être intéressant aussi de voir le choix de l'auteur.
S'il sera là au vernissage, mais donc en tout cas l'expo, donc 8 décembre, 11 mars. Et puis on finit par la programmation de la Cinémathèque, 1er novembre au 31 décembre. De nouveau plein de choses très intéressantes, notamment un cycle du cinéma novo brésilien, une anthologie du cinéma polonais, et puis donc des films, comme je le disais, dans le cadre du festival Filmer à tout prix. On va commencer donc cette rubrique autour du paysage sur l'imposture. Je vais, ou Nicolas va aller chercher nos deux invités qui sont à côté et qui discutent. Alors, Stéphane et Johanna, l'imposture, pourquoi ce choix? Et puis voilà, et puis c'est parti.
Bien, c'est un secret de Polichinelle. On a invité nos amis de la cinquième couche et ils vont nous parler de cette fameuse imposture qui est 1h25. Et donc on s'est pris un peu au jeu autour de ce phénomène artistique, qui n'est pas que artistique, hein, mais la plupart du temps, l'imposture dans le domaine civil donne droit plutôt à des choses qui sont de l'ordre de l'escroquerie, etc. Ici, en art, l'imposture est une figure récurrente. Et il nous a semblé intéressant d'aller pointer quelques œuvres intéressantes. Alors, je voulais commencer par celle de Cornelia Solfrank, que probablement vous ne connaissez pas, qui est une artiste allemande qui a fait un assez beau coup en 97. Il y a une galerie de Hambourg, la galerie d'art contemporain d'un musée de Hambourg qui propose de faire la première exposition virtuelle, donc des œuvres de Net Art, et donc on parle ici d'art numérique, et elle se propose immédiatement de participer à ce concours, non pas en son nom, mais au nom de 200 participants. Donc elle génère 200 adresses mail, donc 200 profils de femmes, elle fabrique un logiciel qui génère des œuvres de net art, donc des œuvres fabriquées à partir de codes HTML mal traités et assemblés. Et elle soumet 283, je crois, candidatures à ce concours. Et il se trouve qu'il y a dû avoir environ 80 autres participants. Et aux surprises, les 3 gagnants de ce concours étaient 3 hommes. Évidemment, un des buts de notre amie Cornelia, c'était de prouver à quel point l'art était machiste, en bonne défendresse des femmes, elle a fait ça. Et donc, elle fait un communiqué de presse en disant 283 participants et pas une seule n'a gagné. À côté de ça, tous les mecs qui ont gagné sont des hommes. Et donc, voilà. Et ce qu'il nous reste de cette exposition de 1997 à Hambourg, eh bien, c'est son travail. Le monde est beau, le monde est grand. Je voudrais ensuite continuer par quelque chose qui m'a demandé qui m'a demandé de la réflexion et des questions, puisqu'il s'agit d'un de document F098 du collectif Vidéoconférence, qui en 2000 a été projeté à la Biennale de Lyon. Il s'agit d'un film fait en found footage et qui en fait nous raconte une histoire assez incroyable qui se passe en 1942. Plus d'un an a passé après la rupture du pacte germano-soviétique. Les Allemands ont envoyé une grande partie du territoire russe, mais un second hiver se prépare et les soldats de la Wehrmacht sont épuisés. Ils sont pris en tenaille par l'armée russe, et ils doivent chercher une échappatoire et ils envoient. Il crée un corps spécial qui s'appelle le corps des paysagistes de guerre, Kriegenlandschaftsmalerkörper, qu'ils envoient caméra à la main chercher un moyen de sortir de cette prise en tenaille des armées. Et donc, tous ont été pris, tous ont été tués, tous les films ont été détruits, sauf un. Et on peut voir ce film improbable filmé par un soldat allemand en 1942 cherchant un moyen de faire échapper les chars allemands à l'emprise de l'histoire russe. Et donc voilà, j'ai ici un bout, mais on ne va pas le passer, on se le passera tout à l'heure. C'est très très beau, c'est lu par une voix off en russe et sous-titré en français. Et c'est un document de première bourre. Sauf qu'à Lyon, il a fait à la fois pousser des hauts cris en disant ah, « Quel document incroyable! Comment est-ce possible qu'on ne l'ait jamais trouvé ?» Et puis après, ça, des grands cris, genre de scandalisé. Alors, enfin, je citerai encore dans l'art numérique Darko Maver des Zero One. Les Zero One, en fait, c'est le diminutif de Zero One, Zero Zero One, Zero One One One, Zero One, Zero One One One, Zero One, qui est en fait le code de la lettre K, comme crack. Et c'est un couple italien qui sont les époux Matthes. Et ensemble, ils ont fabriqué quelques pièces assez fameuses. Ils ont notamment fait une fausse proposée d'appeler la place Karl Marx de Vienne en Nikeplatz et fait une campagne à la place de Nike pour faire accepter à la population cette idée. Donc un beau truc de hacking. Nike courait en disant « Non, c'est pas vrai, on veut pas faire ça !» Ils disaient « Oui, vous aimez porter les chaussures, votre ville aimera porter Nike !» Et donc toute une campagne avec site web, etc. assez flamboyante. Mais ils ont leur premier vrai coup, ça a été de fabriquer un artiste qui s'appelait Darko Maver, et qui était un artiste serbe. C'est au tournant, c'est en 98, en plein, ça bouillonne en Yougoslavie. Et eux proposent donc, disent, il y a un artiste là-bas et il fait des photographies. Je vous montre quelques-unes des photographies de Darko Maver. Oups, zboum, il s'agit ici d'une photographie d'un jeune fœtus. Et puis il y a une main coupée. Et tout est à l'avenant, une série de photographies comme celle-là, qui à la fois scandalisent par leur mauvais goût et à la fois elles sont à l'image de la Serbie de cette époque, sanguinolente et brutale. Et donc cet artiste est à la fois pris comme une espèce d'artif représentatif de la Serbie. Il y a très peu d'artistes, donc de la liberté d'expression, etc. Et puis soudain, le bruit court qu'il est menacé pour antipatriotisme. Et puis soudain, le bruit court qu'il a disparu. Et puis à un moment donné, on le retrouve mort dans une prison. Tout ça, évidemment, passe par le vecteur des époux Matthes qui sont leur seul relais avec cet artiste avec lequel personne n'a plus de contact. Et ça a fait du remous. Il y a à un moment donné, on expose des photographies à la Documenta X de documents de Kassel, et il y a même un hommage qui est rendu, etc. Et un peu après, début 2000, nos amis révèlent qu'en fait tout ça est un pur canular, que ce type n'a jamais existé. Nom de Dieu. Donc voilà, c'est pas
beaucoup d'exemples comme ça. Oui, et alors c'est marrant parce que l'histoire avec la transformation de la place Karl Marx de Vienne en Nike me fait fort penser aux Yes Men qui ont dit que... oui, ah, bah, d'accord, excuse-moi, mais je vais spoiler le bazar. Introduit. Donc, ils ont dit que les victimes de Bhopal allaient être indemnisées par Union Carbide qui a fait cet horrible carnage. Et ils ont dû arriver derrière comme Nike pour la place de Karl Marx, dire mais non, on va pas faire ça. Je veux dire, ils ont dû nier le bazar.
Ouais. Voilà, donc moi j'allais parler des Yes Men justement. Donc pour resituer un peu le truc, c'est un collectif, c'est deux Américains.
Au départ,
ils sont peut-être plus nombreux maintenant, qui maîtrisent deux choses manière incroyable, c'est qu'ils maîtrisent les médias, donc ils sont capables de créer des faux sites internet et de se faire passer pour des porte-parole, pour des journalistes. Donc il y en a un des deux. Alors les noms, est-ce que je vais retrouver ça dans mes notes? Non, évidemment. C'est pas grave, c'est sur le blog. Donc, ah, sympa. En fait, ils s'appellent Jacques Servin et Igor Vamos. Et donc, ils ont les pseudonymes, ils changent souvent, mais souvent ça revient, c'est Andy Bilchbaum et Mick Bonanno. Et donc, en fait, bon,
Igor Vamos, c'est pas un pseudonyme.
Ça non. Semble, hein.
Peut-être. Écoute, je ne sais pas.
Quel est le vrai nom, en fait?
Je ne sais pas. Mais donc, Jacques Servin, c'est celui qui joue l'acteur. Et donc, il peut se faire passer pour un représentant de la Chambre des commerces aux États-Unis. Et alors, un des plus gros coups qu'ils ont fait, en fait, c'est de créer un faux site de l'OMC. Et à ce titre-là, de se faire inviter à différentes conférences.
En fait, c'était plutôt celui du GATT, historiquement. Donc, ils ont déposé le nom GATT.org alors que les accords du GATT sont signés. Et ils sont les premiers à le faire. Donc, ils disent « Ouhou, on l'a !» Et puis, ils disent « Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce nom de domaine maintenant ?» Et ils déposent un site qui est plus blanc que blanc, donc plus néolibéral que néolibéral.
Et alors, ils arrivent avec des discours complètement aberrant et ce qui est donc c'est souvent
en fait
filmé,
ils poussent à l'absurde c'est... toujours en fait ce oui, qu'ils font c'est qu'ils prennent le discours dominant mais ils le poussent à l'absurde complètement devant un auditoire qui le cautionne et qui remarque de cette façon-là que c'est absurde que c'est complètement délirant.
Souvent le public donc ils sont quand même confrontés au grand de ce monde entre guillemets réagit très peu en fait.
Ouais. Mais en fait quand on regarde ça sur YouTube au départ ils réagissent tout à fait normalement, ils écoutent, ils applaudissent un peu, puis progressivement, comme ils poussent les choses très très fort à l'absurde, et d'ailleurs c'est la meilleure façon de parler à un extrémiste, c'est d'aller dans son sens, mais d'aller très très fort dans son sens. Et à un moment donné...
Systémique.
Voilà. Bah là, il y a un exemple, par exemple, ils s'étaient fait inviter en 2000, donc ça c'est dans leur film, les Yes Men, donc à Salzbourg en Autriche, et alors c'est une conférence sur les textiles du futur. Ah non, ça c'était en Finlande, voilà. Et en fait, ils arrivent avec un discours du genre... En fin de compte, mieux que l'esclavage, c'est vrai, on a trouvé quelque chose de bien meilleur, c'est l'employé délocalisé. Donc c'est déjà super cynique. Et alors, donc ça, il faut vraiment voir les images. Là, ils rentrent dans un truc complètement aberrant. Ils disent, par contre, pour les surveiller, on a pensé à un truc incroyable, donc textile du futur. C'est un costume. Alors là, le mec se fait déshabiller d'un coup, c'est spectaculaire. Et là, c'est hilarant. Il a un costume doré. Et alors, il a un truc qui part de son sexe, qui est super phallique, et au bout, il y a un écran. Et alors, il dit comme ça, moi, le chef, le patron, je peux me balader, et sur cet écran, au bout de sa bite géante, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, il peut surveiller les employés. Et alors, il fait un truc encore pire. Après, il se confronte à des étudiants et ils leur font croire, en fait, qu'ils sont associés avec le McDo, et qu'en fait, on peut recycler les excréments.
On peut recycler la bouffe et le revendre entièrement.
Le re-burger. Et donc, en fait, ils installent Donc, dans les pays pauvres, ils proposent d'installer une machine qui va récupérer les excréments et recréer de la protéine et pourra faire des hamburgers. Et alors là, ils réussissent à avoir une réaction des étudiants parce qu'en fait, ils leur disent « Et donc, l'hamburger que vous êtes en train de manger maintenant, c'est le prototype. » Donc, alors là, les étudiants sont...
Outrés.
Non, et alors, il y en a d'autres qui disent « Are we talking about human people ?» Enfin, « human being ?» Enfin, donc, à un moment donné, il y a des gens...
En l'occurrence, c'est un Indien qui s'insurge ou une Indienne, je ne sais plus, enfin, qui
Mais les dit, étudiants, c'est un peu
oui, enfin,
les premiers.
Moi, ça me gêne un peu qu'on considère qu'il y ait, finalement, des hommes qui peuvent manger des hamburgers de première génération et puis d'autres qui devraient manger les hamburgers de cinquième génération. Et puis, le gars, il répond « Oui, mais enfin, bon, que voulez-vous, dans le monde, il y a des riches et puis il y a des pauvres. » C'est comme ça. Ce qui est le discours de la droite.
Ah oui, bah, et là, ils ont fait. Donc, la vidéo que j'ai mise sur le blog me fait particulièrement jubiler parce que ça se passe en France. Et en fait, ils voulaient tester la profondeur et la tenue du discours écologique en France. Et donc, un des activistes se fait passer pour un journaliste américain en disant les Français adorent se faire interviewer par les Américains. Sauf qu'ils se font passer pour des Américains ultra réactionnaires qui s'amènent en disant écoutez, si vous passez votre loi Hulot, Nicolas Hulot, là. On arrête d'investir, les États-Unis arrêtent d'investir en France, et donc c'est 500 000 emplois qui sont perdus. Et donc, simplement, ils manipulent les médias, ils reprennent des interviews de chaînes américaines, et simplement, les sous-titres, ils doublent ça, et donc personne, parce que les Français, c'est quand même pas des bêtes en anglais de toute façon. Et là, on a en direct un politicien du gouvernement de Sarkozy qui retourne sa veste. sa veste en direct. Et alors, ils vont hyper loin parce qu'ils disent, d'ailleurs, Boeing et General Motors, on a fait quelque chose d'incroyable. En fait, on va déplacer de la glace, on va fabriquer de la glace, et alors on fait un pont aérien et on va disperser de la glace dans les zones du monde qui se réchauffent. Est-ce que Airbus serait éventuellement intéressé? Et là, le mec dit, ah, mais oui, bien sûr, c'est ça l'écologie. Et toi, t'écoutes ça et t'es consterné, c'est consternant. Et c'est, voilà, c'est... À la fois, c'est drôle, tu dis c'est génial et tout, c'est super intelligent, mais en fin de compte, c'est quand même... C'est consternant, c'est juste...
Il faut savoir que sous Bush, enfin, ça relaie tout à fait des fantasmes politiques, sous Bush, il y a eu l'idée de pouvoir... d'abord, il y avait des lobbies qui combattaient contre l'idée que la Terre se réchauffe, donc pendant tout un temps, il y avait une politique de négation, oui, certes, mais après, à un moment donné, Bush s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas tenir cette posture très longtemps, qu'il allait quand même, à un moment donné, falloir reconnaître certains chiffres. Et donc, ils ont préparé une réplique en faisant travailler déjà des scientifiques sur des solutions qui seraient compatibles avec le modèle américain. Et alors, notamment, un des trucs, c'était balancer du soufre dans les hautes couches de l'atmosphère, parce que quand il y a une éruption de volcan, la température descend de 2 degrés environ pendant quelques mois. Et donc ça, c'était une... Voilà, si tout va mal, boum, on envoie plein de soufre, et ça va refroidir un peu. Une autre des solutions était de stocker le CO2 en dessous des océans. Vous savez qu'il devient liquide à une certaine pression, et donc on pouvait le stocker dans le fond des océans, des endroits abyssales. Le problème, c'est que si ça remonte, ça devient un océan pétillant, et tout ce qui est dedans crève, quoi. Mais bon, ça, c'était des risques gérables, et donc on était vraiment dans des trucs, les yes men qu'on peut traduire par béni oui oui, donc on dit oui à tout, sont dans la droite lignée en effet de cette exagération de politique qui sont déjà en place.
Là, ils avaient réussi ils avaient parcouru les États-Unis, ils réussissaient à faire signer un gage de patriotisme aux gens. Et donc, dans ce gage de patriotisme, les gens se portaient volontaires pour accueillir près de chez eux un site de stockage de déchets nucléaires, à envoyer leurs enfants faire la guerre à l'étranger et abandonner une partie de leurs droits constitutionnels et toute une série de choses comme ça.
C'est Frank Miller, mais...
Mais ça joue sur ça, ça joue sur le fait que tu peux faire avaler n'importe quoi à un public, même les plus, soi-disant, les plus avertis ou les plus réactifs. Ouais.
D'autres... C'est ça qu'on veut démontrer, en fait.
Ouais.
D'autre part, je trouve que ce qui est assez beau chez Yes Men, c'est qu'il y a en plus ce côté grande tentouze qui est très présent dans leur boulot, qui s'affiche, on l'a dit, dans cette combinaison dorée avec un énorme sein, avec un énorme sexe, pardon, pas ça. Qu'est-ce que je dis ? Notamment dans la campagne de Bush, ils avaient aussi sillonné les États-Unis avec des habits de cow-boy blancs, moulants, et des espèces de trompes terminées par un bec verseur de pompe à essence avec lequel ils dansaient, comme d'un autre phallus plus mou et souple, celui-là. Donc il y a tout un côté un peu comme ça, très dans les vidéos qu'ils font pour montrer. Ouais, un côté un village people très très jouissif aussi, et qui vient un peu perturber cette espèce de message complètement costard cravate que par ailleurs ils véhiculent. Donc voilà.
J'ai un dernier truc rapidement, mais c'est sur le blog. C'est juste là, on passe à l'imposture visuelle. C'est une toute petite parenthèse sur l'animation qui est quand même l'illusion par définition. Et juste, j'ai vu sur le site La Boîte Verte, donc j'ai un petit lien du blog vers ce site, une petite vidéo intitulée La magie du fond vert. Alors c'est un petit peu le... C'est comme quand on vous dit que le Père Noël n'existe pas. Donc cette vidéo, c'est une succession de plans, de films connus, plus ou moins connus, de séries. Et en fait, à un moment... Donc il y a l'image que nous on voit quand on regarde la télé, et puis d'un coup il montre le plateau de tournage avec le fond vert, et tu te rends compte que deux femmes qui discutent sur un paquebot, bah, en fait tu peux t'attendre à ce qu'il y ait deux femmes, une barrière et un fond vert. Et c'est ça un peu pour tout, et c'est juste que ça...
Là, c'est ça aussi dans la réalité, parce que j'ai une amie serbe, yougoslave, qui d'ailleurs organise l'exposition qui a lieu ici, Yougoslavie 20 ans après, qui est allée au tribunal international de la Yougoslavie, qui n'est pas le TPI, c'est un tribunal spécial créé par les États-Unis, aux Pays-Bas aussi, pour juger des crimes commis en Yougoslavie à l'époque de Milosevic et Karadzic. Et ils sont allés au tribunal, et en fait, ce qu'on a vu à la télévision, c'est un coin de décor dans un zoning industriel, et il y a juste un coin où on voit une belle cage en verre pour les inculpés. Et tous les murs sont bien peints en blanc, mais ça ne va pas jusqu'au plafond. Et si on panotait un tout petit peu ou si on dézoomait, on verrait que c'est juste un décor de télé.
Et pas un procès, c'est ça que tu veux dire.
C'est un vrai procès organisé par les États-Unis, et uniquement par les États-Unis et un peu l'OTAN, de crimes de guerre. Mais c'est un décor de cinéma.
Bah c'est ça, enfin, ce que je me disais en voyant ça, c'est que donc à partir du moment où la 3D, alors je ne sais pas qui a précédé quoi, mais à partir du moment où l'animation devient rentre dans la famille des effets spéciaux. Donc voilà, maintenant on a un truc hyper réaliste et c'est juste poser la question de notre capacité, nous en tant que spectateurs, à prendre pour vrai une image qui paraît cohérente. Et là, ça commence à faire peur, je trouve, quand tu vois cette petite vidéo.
Il y a aussi l'image célèbre des prisonniers bosniaques, si je me rappelle bien, de Bernard-Henri Lévy. Et il y avait une autre photo en contre-champ qui montrait qu'en fait, il y avait juste un bout de barbelé derrière lequel on avait massé des gens pour dire qu'il y avait des camps de concentration. Mmh. Donc, c'est tout le temps, ça. Tout le temps. Et puis, il y a le film « On a menti sur la Lune », qui était très amusant aussi, où on est arrivé d'ailleurs, depuis, des tas de gens le croient vraiment, à démontrer qu'en fait, c'est Stanley Kubrick qui a prêté ses compétences et ses studios pour faire croire que les Américains avaient été sur la Lune. Et c'est débriefé par Alexandre Adler, quand c'est passé en direct sur Arte à l'époque, qui explique qu'il faut se méfier parce qu'à l'heure d'Al-Qaïda, on sait qu'on utilise les médias pour tricher et pour mentir. Sous-entendu, en gros, ceux qui ont menti avec les médias, c'est Staline et puis c'est Al-Qaïda, et puis en aucun cas nous autres. Jamais.
Et cette émission de la RTBF, ce fameux journal télévisé sur la scission de la Belgique, qui était ceci dans la démarche de l'imposture, mais qui a créé son effet assez énorme. Le Bye Bye Belgium, qui a fait aussi dans son idée de faire des mises en scène et de voir jusqu'où on pouvait aller, puisqu'on avait le présentateur télévisé qui était caution, finalement, de ce qui était véhiculé, et que personne ne remettrait en question ce que c'est François de Brigode.
Une de rares fois où Brigode a été honnête et journaliste.
et de voir ça, donc c'était aussi assez intéressant, sur une chaîne publique qui s'amuse à faire ça, et puis finalement qui doit en assumer les conséquences, qui apparemment n'étaient pas aussi pas prévues de telles proportions. Mais bon.
Le film dont vous aviez parlé s'appelle Opération Lune, et il est signé William Carell.
Oui, c'est une grande tradition. Et on pourrait citer aussi, je connais une super. Ah oui, pardon, je vais laisser la parole à Jada.
C'est pour qu'on commence à parler de la cinquième couche éventuellement.
Oui, on va peut-être revenir sur l'imposture, mais...
Termine ton truc et puis après je vais l'enlever. D'accord, il y a une dernière. J'ai pas retrouvé les références, pour ça que je l'ai pas amené. Mais dans les années 90, des étudiants en dernière année en master d'une école d'art en Angleterre, probablement à Londres, avaient reçu de l'argent pour faire une pièce de fin de. Toi, ça se fait beaucoup dans les écoles d'art. On reçoit un budget pour finaliser une pièce pour la production. Et eux avaient donné rendez-vous au jury à telle date à l'aéroport. Et à leur grande surprise, ils avaient vu débarquer des portiques, des jeunes gens bronzés avec des valises et qui ont tenu une conférence de presse disant le but de l'art, c'est l'élévation de chacun, l'amélioration de nos conditions de vie. Eh bien, on a mis ça au pied de la lettre, on a dépensé de fric pour aller prendre soin de nous, bronzer, s'allonger sur la plage, se reposer. Ça fait faire des études d'art, c'est extrêmement fatigant. Ça a fait un méga scandale en disant qu'est-ce que ces petits crétins pensent que la vie c'est, etc. etc.
Je pensais qu'on a posé On a posé une candidature pour que Laurent Durcel soit l'invité officiel de la Biennale de Venise pour la Belgique dans un an ou deux, dans deux ans, je crois. Mmh. Et le premier titre qu'on a dû abandonner, c'était « Comment j'ai amené ma femme à Venise ?» Puisque, en fait, le budget est quand même de 500 000 euros, c'est pas mal.
Donc, c'est des belles vacances, notamment pour emmener sa femme.
Voilà, et moi, je prenais 10% parce que je suis curateur.
Ok, et donc,
rebondir par rapport à...
Je termine, et ils ont, en fait, deux semaines plus tard, après des articles dans la presse, etc., ils ont fait une autre conférence de presse dans laquelle ils ont expliqué que tout cela était une pure mystification. Ils étaient arrivés par les arrivées des vols, mais ils avaient manigancé ça avec des gens de l'aéroport, et en fait, ils avaient uniquement passé le budget, et très peu du budget d'ailleurs, ils pouvaient rendre le reste, à mettre en scène cette mascarade et voir les effets qu'ils auraient en disant, tiens, les puritains dans cette histoire, c'est vous qui voulez qu'on l'art soit laborieux, difficile, qu'on souffre et que l'argent soit dépensé dans des choses qui sont vraiment utiles, qui soient de la production, etc. Nous, on a été faire du banc solaire, on s'est fait chier, on a bien trimé pour vous donner ceci et en avoir les fruits, qui est votre position de petit dénigreur.
Et quelle honnêteté, ils sont même pas partis en vacances finalement. Oui. C'est hallucinant. Non, alors, c'était pour rebondir par rapport au premier thème dont tu avais parlé, c'est cette espèce de concours où il y avait 283 femmes présumées qui avaient participé à ça et qu'il y avait finalement trois hommes qui avaient été
repris, et donc il y avait une espèce de machisme sous-tendu. pour revenir justement à Judith Forest, en fait, par rapport à ce projet-là, puisque finalement derrière Judith, il y avait trois hommes, nous, on nous a dit qu'à l'arrivée, et même peut-être même avant qu'on sache de quoi il retournait, certaines personnes ont pensé que le projet était machiste. Mais peut-être que...
Johanna en premier, d'ailleurs.
Oui, mais puisque
Johanna... Johanna, à l'époque, faisait partie du comité éditorial et qu'on l'a fait dans son dos.
La seule femme ici autour du micro. Et peut-être qu'elle pourra plus expliciter le fait que ce projet était fondamentalement machiste.
Alors, je ne faisais pas partie du comité éditorial. J'ai eu le manuscrit dans les mains à un moment un peu par hasard. Et c'est vrai que j'ai un peu descendu le projet. Et c'est vrai que je les ai quand même relus encore avant l'émission. Et c'est vrai, je ne sais pas si c'est du machisme ou quoi, mais pour moi, une fille, ça ne se représente pas comme ça. Et je continue de penser que c'est la vision de mec qui fantasme sur la vie d'une nana, qui passe ses soirées à baiser, et qui, quand elle se dessine en BD, montre à quel point son cul est magnifique, et sa poitrine, et ses hanches parfaites. Et je ne crois pas. Et qui en plus dit qu'elle ne s'aime pas, et donc je ne crois pas à ça.
Je ne sais plus quel état tu as eu de la bande dessinée, parce qu'après, on l'a fait relire par toutes nos copines, qui nous ont dit, non mais une fille, elle ne dit pas masturbation, elle ne dit pas je me masturbe, elle dit je me touche. Et il y a des tas de petits détails comme ça que nos copines nous ont fait changer pour que ce soit plus crédible. Mais de toute façon, c'est macho, évidemment. On pourrait quand même rappeler que...
On pourrait quand même faire un petit truc, parce qu'on est embarqué directement sur 1h25, sans situer un peu, parce qu'on est passé, en effet...
Je vais raconter un tout petit peu l'histoire.
Pas toi, parce que tu vas en raconter des tonnes. Dis William.
Il faudrait peut-être juste d'abord recontextualiser, disant donc qu'on accueille la cinquième couche, vu qu'on l'a dit une ou deux fois, mais que vous êtes rentré un peu comme ça, entre deux séquences. Donc la cinquième couche, ce sont nos invités de la soirée. Et donc on nous dit souvent, il faut bien représenter les gens qui sont autour de la table et tout ça. Donc il y a bien William N, Xavier Lowenthal et Joe Radou, qui n'a pas encore l'occasion de dire un mot, mais donc il est bien avec nous. Et maintenant, donc nous allons reparler de l'imposture. 1h25, c'est parti, William, tu peux reprendre la parole.
Alors, on va en parler parce qu'on est dans la thématique de l'imposture, mais ce qui est clair, c'est qu'évidemment, c'est jamais qu'un détail dans notre catalogue. D'accord, c'est que c'est celui qui a évidemment le plus brillé dans ce catalogue-là, mais on a quand même 80 bouquins. Et
on parlera du reste aussi.
On va quand même parler des choses intéressantes après.
C'est intéressant aussi, mais en tant qu'imposture, et l'effet que ça a produit.
Et donc, au départ, ce bouquin, 1h25, est né sur une autoroute entre Sierre et Bruxelles, de trois éditeurs un peu dépités au retour d'un festival où on se dit que c'est vraiment pas évident de vendre les livres suicidaires qu'on édite. Et imaginez que, en fait, l'idéal, c'est qu'on puisse recevoir le manuscrit d'une jeune dessinatrice qui parlerait de sa vie sexuelle, évidemment. C'est là, justement, le côté un peu machiste, parce qu'évidemment, la façon dont on allait représenter ça.
Il y avait des modèles, il y avait des hauts de picot, il y avait des...
Oui, il y avait hauts de picot, par exemple. Alors, est-ce que...
Des chocolats, Aurélie Horita, voilà.
Est-ce que, par exemple, toi, Johanna, est-ce que tu penses qu'un livre d'Aurélie Horita est un livre machiste, par exemple? Alors que, justement, la sexualité qu'elle représente pourrait rencontrer tous les fantasmes d'un homme.
Pas. C'est vrai que j'ai fini par lire Fraise et chocolat, c'est ça
chocolat, oui, et puis,
j'en ai pas un souvenir impérissable.
Mais oui, non, mais tu peux pas avoir un souvenir impérissable, puisque je pense que les livres d'Aurélia sont fondamentalement des livres de divertissement. Je pense qu'elle est sur ce plan-là.
Je suis pas sûre de ce que je dis, mais j'ai l'impression que la manière que vous avez de représenter Judith Forest dans les livres est extrêmement lascive. Parce qu'il y a plein de gens qui se représentent. David Lieben se représente dans ses bandes dessinées, Horita se représente en train de baiser... C'est pas un problème, c'est pas ça en soi, c'est juste que c'est plus que narcissique. Peut-être qu'une fille aurait fait ce livre, j'en sais rien, mais moi, connaissant le contexte, vous connaissant et ayant décelé le truc dès le début, moi j'aurais bien voulu être
en tout cas Thierry Grunstein, qui a toute une théorie sur l'écriture féminine en bande dessinée, est tombé dans le panneau, mais tout droit, a trouvé que le livre était remarquable et même qu'il corroborait, heureusement il ne l'a pas écrit, il l'a dit, sa théorie de la jeune fille. que Gilles Forêt était une preuve supplémentaire à l'appui de sa thèse que les femmes n'écrivent pas ou ne font pas des bandes dessinées comme les hommes. Alors, après, je suis absolument et entièrement et 100% d'accord avec toi, c'est un livre scandaleusement macho qui prouve que la BD est encore un genre d'hommes et que les hommes sont les hommes aiment bien se branler en lisant des BD, oui. Et plus, en plus, croire qu'ils ont accès à leur part féminine, blablabla.
Mais en tant qu'auteur, ils projettent leurs fantasmes dans les livres qu'ils font.
C'est la pure projection sur ce qu'un homme pense qu'est une femme. D'ailleurs, ça ne peut pas être différent autrement, puisque c'est William, moi et Thomas qui l'avons fait, ce bouquin, de A à Z. Et notre faculté d'identification à la femme a ses limites, parce qu'on est quand même des mecs. Donc même avec tous les efforts qu'on a mis en œuvre pour féminiser la chose après coup en le faisant lire par des copines, ça reste une œuvre de mec.
Bah, je pense pas que
Guy de Maupassant ait écrit des superbes personnages féminins qui sont magnifiques. Oui, bon, après,
on n'a pas essayé de faire œuvre ici, on a essayé de faire une imposture.
Ça va. Oui, non.
Moi, je pense pas que je sois bien placée pour deux raisons. C'est que j'ai décelé tout de suite le truc. Comme pas mal de gens, je pense, hein, parce que bon...
Ceux qui nous connaissent ont reconnu le dessin de William, oui.
Et aussi, à la fois, c'est un personnage qui, à mon âge, qui à peu près, pas le même vécu, mais disons que moi, je pense que j'étais trop proche, sous plein d'angles différents. Moi, je pense pas que je sois le bon repère par rapport à ce genre de livre.
Très proche de nous aussi, on figure dans le livre également, donc...
Mais un des moyens pour rebondir par rapport à ce bouquin, c'est de dire, reprends ce que tu disais, ça vient d'une frustration de mecs revenant d'un festival avec des bouquins tout de caisses remplies à l'arrière. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de ce point de vue? Comment cette frustration, vous la gérez maintenant, puisqu'elle est toujours là?
Oui. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on fait ce bouquin et derrière... on pourrait commencer à avoir un discours sur les médias, sur la façon dont effectivement les médias ont très très bien accueilli ce bouquin et ça a été très très bien relayé. Et effectivement, on pourrait se mettre dans la posture je sais pas comment qualifier ça, mais peut-être que
cynique, défaite.
Oui, non, mais c'est
un peu désappointé, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait aimé, en faisant ce pari-là, on aurait bien aimé le perdre, ce pari-là. On aurait bien aimé se planter complètement, faire une tentative de faux littéraire, en fait, un genre d'ajar.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une réelle stratégie de faire un bouquin qui tienne.
Oui, on va leur donner ce qu'ils aiment, puisqu'ils savent... En fait, on avait fait le constat qu'on n'avait vendu aucun Ilan Manouache, malgré une énorme exposition de la 5e couche rétrospective, qui faisait une large place à Ilan Manouache, et qu'on n'en avait vendu pas un seul, en tout un festival de Sierre. Et on s'est dit, nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il leur faut? Pendant ce temps, des Hautes Picots, justement, et des Aurélia Horita s'étaient vendus comme des petits pains. Et on s'est dit, bon, et si on faisait ça, mais en boutade? Et on s'est dit, mais Aurélie Leveau ou Alice Lorenzi, qui sont nos auteurs femmes, c'est pas demain la veille qu'elles vont nous faire ça, quoi. Et même si on leur demandait... Enfin, on n'oserait même pas leur demander. Donc, on va le faire nous-mêmes, on va rigoler, on va le faire nous-mêmes, et en espérant de se planter.
Ouais. Je ne voulais pas en venir à ça. Je veux dire qu'à l'arrivée, on pourrait penser qu'on est dans une posture d'avoir eu un discours extrêmement critique sur les médias et tout ça, alors que je pense que quand même un des moteurs fondamentaux qui nous a motivé à quand même passer pas mal de temps à faire ce scénario, à le publier, à l'imprimer, à le dessiner, tout ça, c'est quand même une bonne rigolade. Je veux dire, le premier moteur, c'était quand même de rigoler. Et on a beaucoup ri, effectivement. Mais pas forcément, on dépend des journalistes. Je pense qu'on rigolait nous-mêmes comme des potaches, en fait. Il y avait une grosse potacherie au départ. Alors après, c'est vrai qu'on pourra toujours se draper de cette espèce de posture de critique par rapport à la façon dont les médias pris la chose. Mais bon, voilà.
Il y avait quand même un mélange des deux. Il y avait quand même d'une part une excitation de potache. Oui, tu verrais que ça marche. Quoi. Ce serait quand même trop drôle que ça marche. Et puis... Et en même temps, mais si ça marche, nom de Dieu, c'est que vraiment notre constat est le bon.
Oui, il y a aussi une écriture sous pseudonyme qui a été faite aussi. Enfin, donc, c'est un vrai travail de se mettre dans la peau, donc un travail d'écriture qui est aussi assez bandant.
Très justif. Surtout dans le deuxième tome qui dévoile l'imposture. Et on essayait de faire ça en le dramatisant un petit peu, en l'écrivant. Et c'était un vrai exercice de style. Et donc là, en tant qu'auteur, on s'y retrouve complètement dans l'exercice de style. Mais effectivement, au départ, il y avait cette espèce de grille d'attache, et tu verrais si ça marchait. Et si on était nominé à Angoulême, en plus, ce serait vraiment le pompon. Et on s'attendait, véritablement, on ciblait les revues féminines. On s'est dit, on va voir Elle, on va voir Vogue, on va voir les émissions de prime time. Et les premiers qui ont donné dans le panneau, ça a été Arte et Les Inrock. Et puis, en fait, ce sont des prescripteurs d'opinion, comme on dit, et donc tous les autres ont suivi. Mais tous les autres. Et donc, ça a été le buzz médiatique. Et puis, assez rapidement, est venue la rumeur qu'en fait, peut-être bien que Judith Forêt n'existe même pas. Ce qui n'a fait que renforcer le succès du bouquin. Et voilà, on a casté des comédiennes. En tout, j'en ai casté trois. Et la troisième a dit oui. Les deux premières ont dit ouais, c'est un peu fou ce truc, quoi. Donc je vais devoir vraiment être Judith Forêt, mais pendant combien d'années et puis la troisième, elle a dit écoute, moi, justement, j'ai envie d'arrêter ce métier. Je veux plus être comédienne, donc je veux bien. Mais par contre, après, elle nous a fait signer un contrat. on pensait. Oui, écoute, on s'attendait pas à autant de télé, autant de radio, mais bon, tant mieux, parce que tout ça a finalement été même une opération rentable. On était dans des graves difficultés financières à l'époque. Et c'est vrai que Judith Forêt, enfin, deux femmes nous ont permis, enfin, pas seulement de ces deux femmes-là, mais en tout cas, deux femmes nous ont permis de remettre la tête hors de l'eau. C'est Aurélie William Leveau et Judith Forêt.
Et pour rebondir, pour parler de la difficulté financière, tu parlais là tantôt de choix suicidaires, de livres suicidaires. Maintenant, comment vous définiriez c'est, finalement, est-ce que c'est ce que vous voulez faire, c'est faire des livres suicidaires? Je suppose que non, puisque vous voulez faire des succès, enfin, que des gens le découvrent. Mais apparemment, ça ne marche pas comme vous l'espérez, ou en tout cas que vous... Et comment est-ce que vous réagissez vraiment par rapport à ça et par rapport à... Parce que je pense que sur... autant d'années, il doit y avoir effectivement une forme de désespérance, peut-être, mais vous êtes toujours là et vous sortez encore des nouveautés dont on parlera et de votre catalogue. Mais effectivement, il y a toujours, c'est à chaque fois, vous voyez un nouveau projet et vous dites on ne peut pas ne pas le faire.
Ça n'a pas changé notre position. On va continuer à faire des livres suicidaires, franchement. Ça nous a effectivement sorti la tête de l'eau, mais c'est pas pour autant que on va changer notre politique éditoriale que nous-mêmes n'arrivons pas à définir de toute façon. Comme on a fait la blague une fois, c'est clair qu'on va pas pouvoir la refaire une deuxième fois. On est à nouveau à présent en déficit, comme on l'était au début, au moment où on a commencé à faire Judith Forêt, qui nous a fait sortir de l'eau. Donc maintenant, on est replongé sous l'eau. C'est dans la logique de notre façon de faire, qui est vraiment de pouvoir absolument éditer des singularités, vraiment des gens qui sont justement pas... qui sortiraient pas ailleurs, effectivement.
Et disons que nous, ce qui légitime le plus notre catalogue, à notre avis, c'est des choses qui, justement, se vendent très difficilement, mais qui nous semblent devoir être éditées. Par exemple, Ilan, qui est un auteur très fort, un dessinateur très fort, mais qui lui, alors, prend un malin plaisir à égarer son lecteur. D'ailleurs, tout son dernier gros livre, grande œuvre, qui est Frag, est une entreprise de destruction systématique du sens. Et évidemment, c'est plus difficile à vendre que du Guy de Padel ou du Titeuf ou du Judith Forêt. Mais c'est pourtant ça qu'on veut éditer.
Je voudrais remonter le temps et revenir un peu aux sources de la cinquième couche. Pour ceux qui ne connaissent pas la cinquième couche, c'est né quand, c'est né comment, et pour rebondir un peu sur ce que disait Nico par rapport au choix de livres, comment c'est un peu décidé cette ligne éditoriale, je dirais, comment tout ça s'est mis en place, c'est né avec qui aussi la cinquième couche et,
Xavier va pouvoir parler peut-être un peu plus à l'intérieur, mais j'ai personnellement une vue très distancié des choses, puisque moi je suis arrivé seulement en 98, donc sur le tard. En fait, le groupe de la cinquième couche est né en 93 avec des anciens étudiants de Saint-Luc.
Étudiants de Saint-Luc, on était encore à Saint-Luc.
Oui, des étudiants de Saint-Luc, et donc j'y ai fait partie vraiment sur le tard. Et quand je suis arrivé, ça restait quand même encore un groupe assez informel, même qui s'était constitué en ASBL, mais qui s'auto-éditait principalement. Ils avaient une revue, dans cette revue, il y avait leurs travaux principalement, et parfois quelques contributions extérieures. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on connaît maintenant de la cinquième couche, c'est quelque chose qui est vraiment né au tournant des années 2000, quand il y a eu la décision de transformer cette espèce de groupe informel qui faisait une revue auto-éditée en véritable maison d'édition qui allait s'ouvrir avec des tas d'éditeurs, enfin des tas d'auteurs extérieurs, avec des je parlais d'autres éditeurs parce qu'on a fait aussi des coproductions avec d'autres éditeurs, et de vraiment devenir une vraie maison d'édition. Et donc du coup, j'ai l'impression que la cinquième couche en tant que telle, comme on la connaît aujourd'hui comme structure d'édition, n'est pas plus vieille, par exemple, qu'une structure comme l'Employé du Mois, qui est une maison d'édition bruxelloise, qui est née aussi au tournant des années 2000.
Et une couche qui est bruxelloise aussi, ou qui est...
Elle est née à Bruxelles. Maintenant, si on regarde la liste des auteurs, ça, c'est un peu plus... Enfin, les Belges sont une petite moitié.
Et ce qui est assez symptomatique, c'est que quand Xavier et moi, on a décidé de transformer ce groupe en maison d'édition, et que du coup, évidemment, ça devenait beaucoup plus lourd à gérer... on a vu se carapater, on a vu les différents membres historiques fondateurs tout doucement quitter le groupe parce que évidemment ça devenait beaucoup plus lourd en termes de responsabilité et que ça devenait quelque chose de sérieux. Et donc finalement, la cinquième couche est devenue autre chose avec de nouvelles têtes, avec d'autres collaborateurs qui n'ont plus forcément. Qui sont plus forcément les mêmes têtes qu'on avait au tout début en 93 quand c'est né.
En gros, je suis la dernière tête qui reste de l'origine, et encore, je suis arrivé quelques heures après l'origine, puisque j'ai croisé un ami dans la rue, en l'occurrence Eduardo Garçon, qui m'a dit « Oh, ben viens, on va chez Vincent Dutreuil et Nicolas Wood, il y a un repas », et en fait, à ce repas s'est créé ce qui allait devenir la cinquième couche, qui consistait à l'époque à sortir les planches qu'on créait à l'atelier, des tiroirs et des fardes dans lesquels elle devait rester, pour faire des publications. Et donc on avait, dans la foulée, invité à un dîner les professeurs de l'atelier, c'est-à-dire Marc Séverin et Pierre Pourbet, pour discuter d'un projet de refonte du 9e rêve. Ils nous ont fait comprendre qu'on était en 2e et en 3e, et que ça prendrait des années à être mis sur pied, et que donc on serait déjà loin... Blabla, on a pris ça pour du défaitisme, on s'est dit, on va le faire dans leur dos, et on l'a fait. Mais ça a été une revue qu'on prenait pour un one-shot, et puis il y en a eu une deuxième, puis il y en a eu une troisième, etc. Donc moi, je n'ai pas du tout la même vision des choses que William, puisque j'étais là presque au tout début, et c'est assez naturellement qu'au bout de quelques revues, on a voulu faire un livre, d'abord petit, c'était un supplément au numéro 3, c'était Cotton Schwab, et puis après on a fait un deuxième bouquin, je pense que ça devait être le bouquin de Christophe, comment s'appelait-il encore, Cedre Sequoia, qui était une catastrophe de production qu'on doit rééditer depuis, mais on attend toujours le moment, l'accord de Christophe qui veut toujours tout redessiner. Et donc de fil en aiguille, on a voulu publier nos propres livres, et puis des gens se sont présentés et on a rencontré des gens. Donc je ne sais pas si tu étais déjà là quand on a rencontré Ilan, mais voilà, par exemple, Ilan, il a auto-édité tout seul un travail de fin d'études à Saint-Luc qui s'appelait « La mort du cycliste ». Et on a trouvé ça, Christophe a trouvé ça, je crois, chez Tropisme. Il n'y était pas encore comme libraire. Et puis il m'a appelé, il m'a amené chez Aden, et chez Aden, il m'a montré ce truc. J'ai dit, putain, c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Et puis on a tout de suite appelé, envoyé un mail à Ilan en lui disant, bah, écoute, on veut te rencontrer. Et c'est comme ça qu'est née la collaboration avec Ilan.
Alors, la cinquième couche se crée très très proche du groupe Fréon qui deviendra Frémoc. Donc il y a c'est un an, deux ans plus tard, quelque chose comme ça.
Six mois plus tard environ,
donc on est vraiment très très proche dans le temps. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu un problème de positionnement par rapport à eux? Je sais que dans le départ, la littérature, la référence à la littérature est assez proche, assez présente à la cinquième couche. L'oxymore, des tas de termes qui sont des termes liés à l'Oulipo, etc. sont présents. Et donc, c'était quoi comment faire exister une autre structure qu'une structure qui émerge à ce moment-là?
Je pense que c'était assez spontané. Hein. Je pense que c'était simplement nos centres d'intérêt. Je pense que Frémoc a toujours été, c'était Frigo au départ, avant d'être Fréon et puis Frémoc, a toujours été plus du côté de l'art plastique et narratif, et nous plus du côté de la littérature plastique.
Ouais, et je pense que justement, on peut effectivement très fort faire le lien entre Frémok et la cinquième couche. Et en plus, surtout que, comme structure d'édition, la cinquième couche est vraiment venue sur le tard. Parce que bon, moi, je l'identifie vraiment comme structure d'édition vraiment à la fin des années 90, pour les premiers livres, début 2000. Alors que Frémok avait vraiment déjà pris, je pense, une espèce de pas d'avance en termes de production de bouquins et tout ça. Et donc, effectivement, on a l'impression qu'on est vraiment dans une espèce de démarche après coup. Et je pense que malgré tout, si on regarde vraiment les deux catalogues, et la distinction que Xavier vient de faire par rapport au fait que chez Frémok, la plasticité est vraiment très, très... les arts plastiques sont vraiment très prégnants. Tout ce qui est pictural, texture et tout ça, c'est vraiment très porteur de leurs livres. Alors que je pense que il y a effectivement de ça dans les livres de la cinquième couche, mais il y a aussi peut-être un côté plus... alors, tu as parlé de littérature, tu as parlé de narration, mais on pourrait parler de conceptuel, ou peut-être quelque chose de plus cérébral aussi. Alors qu'on est, je pense que j'identifie pas mal de bouquins, puisque je les suis depuis le début, de livres La cinquième couche, de Frémok, pardon, c'est magnifique, des livres de Frémok qui sont justement dans une logique purement sensitive. Je me rappelle encore des interviews. De Thierry ou de Vincent Fortan ou de Dominique, où dans leur démarche, ils disent qu'ils sont dans une espèce de démarche très sensible, quelque chose qui n'est pas forcément hyper conceptualisé dès le départ.
Bah, c'est vrai.
C'est dans
vrai,
les auteurs que...
Les frères de Pré ont toujours développé un discours très intellectuel sur ce qu'ils faisaient. Après, effectivement, tu vas avoir des Vincent Fortan ou des Jean-Christophe Long qui vont être plus des instinctifs.
Instinctif, ouais, c'est le mot. Ouais.
Effectivement, la cinquième couche, on est plus intellectuel et moins instinctif, peut-être.
Mais bon, en même temps, bon, c'est vrai que c'est difficile de... Bon, c'est très...
Parce qu'on parle de Manouache, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement, relativement instinctif. On parlait d'auto-édition permanente dans son cas, et aussi de plutôt abstrait. Vous parliez à l'instant de la déconstruction totale des codes de la bande dessinée, donc de la narration, etc. Donc il y a là, je crois qu'il y a un postulat de départ qui s'est basé en effet peut-être plus du côté de la littérature, et puis un chemin faisant, quelque chose qui est assez proche.
Ça dépend des singularités. Bon. Ça, c'est Ilan. Le problème, on a toujours revendiqué, enfin, en tout cas, dès le départ, à la cinquième couche, on a revendiqué une forme d'éclectisme. Mais et donc par conséquent, on n'a jamais pu distinguer nous-mêmes clairement une ligne éditoriale. La cohérence, elle vient après coup, c'est-à-dire qu'après coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'acceptera pas, qu'on n'admettra pas dans le catalogue, parce que ça ne nous paraît pas être entre guillemets cinquième couche, et puis d'autres choses qui évidemment nous paraissent pouvoir y figurer indépendamment de leur valeur intrinsèque. Et donc après, comme on revendique une forme d'éclectisme, on va regarder la force d'un travail en lui-même, indépendamment de son style.
Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on est en train de construire une espèce de discours comme ça après coup. C'est clair qu'il y a, je veux dire, le rapprochement avec Frémok, il est légitime, totalement. Et c'est clair que là, on essaye de tout doucement essayer de voir un peu quelles sont les spécificités, mais on est vraiment dans le discours, on est vraiment dans quelque chose de... Voilà, c'est pas aussi, évidemment, aussi clair que ça. Chez Frémok, il y a eu des choses qui ont été publiées. On se souvient peut-être probablement pas de Passage en douce, qui était un livre pour lequel ils ont reçu le prix du meilleur livre à Angoulême dans les années 90. Qui était un livre autobiographique dans un style beaucoup plus classique. Et donc, même définir la politique de Frémok n'est pas forcément aussi clair que ça, et définir la nôtre n'est pas aussi clair que ça.
Je suis obligé de t'interrompre une seconde.
Venir commencer à essayer de commencer à...
Parce que le livre dont tu viens de parler, Passage en douce, Frémok ne veut pas le rééditer, et il nous a été officiellement présenté. Mais je ne te l'ai pas dit.
Alors, on va peut-être faire une petite pause, parce que sinon, Ouais, on va partir jusqu'à minuit. S'écouter un peu de musique parce qu'on vous a demandé aussi de venir avec des morceaux. On va commencer par celui de William, un morceau d'Amatorski que tu peux nous présenter brièvement. Et puis après ça, on va peut-être parler des livres, parce qu'on a beaucoup parlé de catalogue, de choix et tout ça. Mais on va peut-être parler de livres aussi bien anciens que nouveaux, des projets. Il y a une pile de bouquins là, juste devant vous. Donc après, on parlera de ça, le morceau de musique, William.
Oui, donc je veux quand même rebondir sur le fait, effectivement, nous, l'essentiel, c'est quand même, quand dans ce genre d'opportunité qui nous a donné de parler, c'est quand même les livres dont on veut parler, pas forcément de ce genre de contexte éditorial et tout ça. Et alors, j'essaye toujours plus ou moins de motiver mes choix musicaux, comme je l'ai fait la dernière fois. Et donc là, pour le morceau d'Armatorski, c'est difficile à prononcer, ça s'appelle « My Favorite Work of Art ». Et j'ai pris simplement pour le titre, dans le côté mon œuvre préférée, c'est la traduction, dans le fait que on va revenir aussi à la démarche d'éditeur, ça reste toujours dans la subjectivité. C'est exactement comme quand on se retrouve en position de prof, je sais qu'il y a des profs ici autour du micro, ou en position de jury. Jury étudiant ou même jury en festival, quand on doit choisir un film par exemple en festival, on est quand même totalement dans la subjectivité, et c'est pareil pour un éditeur. Ce qui va éditer, c'est des choses qu'on va finalement voter en fait à main levée autour de la table en comité de lecture. On est dans la pure subjectivité, et donc le catalogue de la cinquième couche, c'est de la pure subjectivité. Voilà tout le morceau.
Voilà, on a été, on a déjà beaucoup, beaucoup causé auparavant, et donc il nous reste là 25 minutes. On va laisser le plus possible, plus de temps possible, donc à nos amis de la cinquième couche pour parler des bouquins. On a beaucoup parlé catalogue, alors voilà, on vous écoute. Parlez-nous de vos bouquins, que ce soit des plus anciens ou des nouveautés.
Xavier va commencer par parler d'Ilan Manouache, qui a eu 4 actualités en 2011, puisqu'il a sorti 4 bouquins.
Oui.
En juin, en septembre et ce mois-ci, ça s'est paru il y a quelques jours à peine, donc je te laisse parler.
Alors Ilan, il est effectivement intarissable, il produit des livres tout le temps, et des disques aussi, et des concerts. C'est quelqu'un qui crée comme un forcené, avec énormément de force et d'intensité. Donc c'est un peu des critères esthétiques pour nous fondamentaux, ça, l'intensité et la force. Et donc, effectivement, il a publié récemment Limbo et Limbo, un livre de texte et un livre d'illustration. Limbo texte raconte, ou est plutôt un rapport scientifique sur une expérience menée en botanique et en sylviculture. Et elle est racontée du ton le plus froid, le plus mécanique, le plus technique possible, exactement comme un rapport scientifique, c'est dire à quel point c'est sexy. Et ça raconte comment on peut améliorer l'espèce en sélectionnant les membres les plus vigoureux et en éliminant les membres les plus faibles. Évidemment, ça rappelle irrésistiblement une autre histoire qui concernait les humains. Et pour la petite histoire, une étude, une thèse de doctorat en Allemagne a montré qu'il y a eu effectivement un glissement du vocabulaire de la sylviculture et du traitement des arbres et de leurs maladies vers le traitement de l'espèce humaine en Allemagne dans les années 30. Ce qu'il a ignoré au moment où il a écrit Limbo. Et donc, ça c'est Limbo texte, et Limbo, l'autre Limbo, ce sont les illustrations de ce texte, par plusieurs auteurs, par plusieurs dessinateurs, en l'occurrence Ilan, puis Pascal Maté, Tommy Moustouri, André Lemos, Dimitri Barboulis, si je m'en rappelle, et Alberto. Et ça, c'est un diptyque qui est paru il y a 6 mois environ. Ensuite, il nous est arrivé environ dans la boîte aux lettres un autre livre d'Ilan Anouache qui s'appelle Écologie forcée, qui était au départ une commande de la Biennale du Havre. Alors, Écologie forcée est le développement d'une théorie de la conspiration ou d'une théorie du complot. Mais Ilan considère que la théorie du complot est une théorie esthétique unificatrice par excellence. Avec une théorie du complot, tout s'explique, tout s'emboîte, tout devient parfait, tout a du sens, tout fait sens. Puisque des éléments aussi hétérogènes et disparates que le chant des oiseaux, la fumée d'un avion dans le ciel, ou un saint qui s'échappe d'une robe dans un festival de cinéma, tout ça vient ensemble et participe à la conspiration judéo-maçonnico-jésuito-capitalistico, je ne sais pas quoi. Puisque effectivement pour un complotiste ou un adepte de la théorie du complot, tout conspire au même mal. Et donc là, c'est une espèce de description d'un biotope où tout contribue à s'organiser dans une seule direction. Voilà. Finalement, la théorie du complot, ça remplace Dieu. Et ça, c'est Écologie forcée. C'est un livre que je trouve magnifique et que j'ai découvert entièrement fini. Donc, Ilan ne m'a pas montré les étapes successives de ce travail. Je n'ai pas eu droit de lire le texte avant sa publication. Et voilà, ça, c'est du Ilan tout craché.
Et donc, ce sont quand même deux très, très beaux livres de dessin. Ouais. Enfin, ils sont quand même, je vous trouve, assez défaitistes par rapport au fait que Ilan ne soit pas vendable. Parce que je pense que si quelques clés étaient données, et je pense qu'elles manquent un peu de votre part. Mais pour moi, c'est des livres, enfin, n'importe quel amateur de dessin peut complètement flasher sur ce genre de travail. Je pense qu'il faut juste quelques clés de son travail et elles ne sont pas facilement accessibles.
Mais on essaie de les donner. On essaie de les donner
à ce niveau-là, parce que Ilan est vraiment un vrai homme du dessin et ce n'est pas pour rien qu'il se retrouve maintenant d'ailleurs dans la dernière compilation de Frédéric Poincelet, maintenant chez les Requins Marteaux. Je ne me souviens plus du tout.
Frédéric Magazine,
où qui était une entreprise vraiment totalement orientée sur le dessin pur, et donc c'est normal que Frédéric Poincelet ait fait appel à Ilan, parce que vraiment il y a cette espèce de force dans le dessin, il y a cette énergie qu'il essaye vraiment de transmettre à travers ses images et de préserver, et qui fait toute la force de.
Et en même temps, ce n'est pas lui faire justice, parce que pour Ilan, le dessin n'a de sens que dans un continuum narratif, éventuellement discontinu. Et on rappelle sans arrêt qu'il est musicien, que pour lui, une bande dessinée ou la narration, c'est affaire de rythme, de thèmes repris et variés, de rupture, etc. Et qu'il fait une narration comme il fait du free jazz, mais, ou comme il fait maintenant de la house, parfois. Mais,
puisqu'il est musicien par ailleurs.
Mais donc, ce n'est pas lui rendre justice que d'en parler exclusivement comme d'un dessinateur, parce qu'il ne dessine pas en dehors d'une narration.
C'est pas juste en parler exclusivement de telle ou telle manière, c'est d'en parler tout court. C'est juste.
C'est
pas de boulot d'éditeur de trouver les bons mots pour aller chez les gens et y a moyen, quoi. C'est juste. C'est ton boulot, Xavier, de défendre. Je veux dire, c'est pas à moi de dire c'est un dessinateur ou pas. Ouais, maintenant, c'est un musicien de jazz. Moi, j'en sais rien. Mais c'est votre travail, quoi. Je pense. Enfin, vous avez des bouquins qui sont parfois un peu difficiles et. Si vous le faites pas, qui va le faire? C'est pas les libraires qui vont. Enfin, vous savez bien. Enfin, si, je déplore pas le boulot des libraires, mais c'est déjà suffisamment difficile.
Un bouquin dont on parle le mieux du monde sur Internet ou dans des communiqués de presse ou à l'occasion de conférences, et je te jure que pour Ilan, concernant Ilan, on ne manque jamais de le faire. Ilan s'impose beaucoup plus facilement dans le monde de l'art contemporain, qui se prend de passion pour la bande dessinée depuis quelques mois ou quelques années, où effectivement son dessin s'impose par sa force, que dans le monde de la librairie ou de la critique de bande dessinée, où on a beau expliquer, c'est pas pour autant que le libraire il va en prendre 5. Hein.
Je ne sais pas.
Et c'est donc pas facile. Donc dès qu'on arrive avec un nouvel Inal Manouache, quand on est arrivé avec Frag à Angoulême, ils sont partis immédiatement comme petit pain, mais je peux te nommer chacun des acheteurs. C'est-à-dire que c'est nos confrères éditeurs, nos confrères auteurs, et qu'après, quelques personnes du public aussi, mais grosso modo, dans les festivals qui rassemblent la profession, Ilan, ça part. Quand on est en face d'un public qui n'a pas l'habitude, c'est beaucoup plus difficile.
Dans la continuité, on peut éventuellement évoquer le prochain Ilan, et Joe pourra en parler, mais qui sera très très particulier parce qu'il ne sera pas signé par Ilan, il ne sera même pas sous la bannière de la cinquième couche, même si c'est nous qui allons l'éditer, parce qu'il a une vraie particularité. Joe.
C'est vrai, du coup Ilan, donc, en fait, son prochain livre... qui va s'appeler Cats et qui va sortir du coup sous la bannière Dust. Et en fait, tout simplement, comme il avait fait pour Vivre Ensemble, une réécriture de Moss, de Spiegelman, où l'histoire, là, il n'y aura plus de souris. Ça sera essentiellement des chats.
Uniquement des chats.
Essentiellement, uniquement, oui. Parfaitement. Et du coup, voilà, c'est...
Wow, quel est, et donc, du coup, il s'emmerde tout seul à table ou qu'est-ce que ça implique dans cette narration complexe? Parce que ça pitch à mort, mais ça ne nous dit pas grand-chose.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... bon, alors déjà, Spiegelman est le président de notre prochain festival d'Angoulême, donc ça tombe bien. Même si c'est un projet qu'Ilan porte depuis vraiment pas mal de temps. Mais qu'est-ce que ça implique, le fait que dans l'œuvre de Spiegelman, les différentes ethnies soient représentées par différents animaux. Donc on a les chats, les souris, on a les cochons pour les Polonais.
Les cochons des Polonais, oui.
Et ici, tout est ramené à un seul animal. Et donc je pense que
c'est bien,
ça...
il s'agit d'êtres humains, dans la vraie vie, dans la vraie histoire. Les Juifs, les Allemands et les Polonais ne sont pas des cochons, des souris et des chats, mais des êtres humains. Ils appartiennent à la même espèce, ils peuvent se reproduire entre eux. C'est même arrivé quelquefois. J'en suis même la preuve. Et donc, effectivement, là... Non, je ne suis pas spécialement polonais. Mais donc, effectivement, Ilan relève une espèce de... Je ne dirais pas d'imposture, mais de...
Que Spiegelman n'arrive pas, Spiegelman a essayé de se dépêtrer pendant de nombreuses années suite à la réaction d'Hervé Pécard, si je me souviens bien,
oui,
dont les parents étaient polonais et qui avait très mal vécu le fait que Spiegelman se permette de juger des nations entières uniquement sur le fait du fait de quelques-uns, en considérant que les Français ne seraient pas des lapins, mais des grenouilles. Et il l'explique au début du deuxième tome de Maus, en disant « Tous les Français ne peuvent pas aider la main, c'est trop mignon, parce qu'ils ont été, ils ont eu des collaborateurs, donc ce seront des grenouilles, qui est un animal plus ingrat. » Même chose pour les Polonais, en disant « Tous les Polonais, parce que les Polonais ont laissé faire, entre guillemets, les camps en Pologne, ils seront tous des cochons. Les Américains, qui sont les sauveurs, seront des chiens. » Et il applique... Alors, il est bien embêté quand Hervé Pécard lui signale que ses parents étaient polonais et qu'il ne supporte pas qu'on les associe à des collaborateurs alors que ses parents ne l'étaient pas. Spiegelman a essayé de se dépêtrer après en essayant de dire « Mais c'est parce que j'essaye de faire comprendre aux gens ce que ça fait d'eux. »
Et il a parlé de masque aussi, il a dit « C'est sur des masques,
etc. » voilà. Mais il n'explique pas, et c'était un des gros problèmes, un reproche que je lui fais. C'est effectivement, il ne donne pas le choix d'être juif allemand, ce qui est une impossibilité dans son œuvre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être à la fois des souris et des chats, alors qu'un juif peut se sentir tout à fait allemand et un allemand tout à fait juif, et que c'est une impossibilité qui est dangereuse et particulière, mais qu'effectivement qui est intéressante dans la démarche là de bouquins que je n'ai pas vu, un concept que je découvre, mais effectivement, qui est de dénoncer la dérive de ce système.
C'est un peu le procès que Ilan fait, Ilan étant juif par ailleurs. Donc voilà, son positionnement est assez clair.
Ça, c'est un bouquin qui sortira...
Il sortira à Angoulême.
Il sera là à Angoulême, mais...
Il est déjà imprimé.
Sa sortie sera en mars.
En mars, pas en mars.
Maintenant, on verra bien ce qui va se passer parce que Ilan a commis la maladresse d'envoyer un mail à Art Spiegelman à propos de ce projet. Et Art Spiegelman a envoyé un mail en réponse expliquant que c'était déjà une polémique ancienne et que lui-même s'en était expliqué en expliquant qu'il s'agissait non pas de souris et de chats, mais d'hommes portant des masques de souris, de chats et de cochons. Et bon, bref, argument qu'Ilan récuse immédiatement en disant que le seul qui a un masque dont on voit le fil, c'est Art Spiegelman à son travail. Tous les autres, ce sont clairement des chats, des souris et des cochons. Et puis Art Spiegelman explique qu'il est tout, il serait tout à fait d'accord avec une œuvre de détournement dans une galerie d'art reprenant une partie de l'œuvre, mais l'œuvre intégrale republiée intégralement avec uniquement des chats à la place donc des souris et des cochons. Il s'y opposait formellement. Donc on verra. On l'avait déjà fait Petsy auparavant. Donc Petsy, c'était un autre projet d'Ilan de détournement qui s'appelait Vivre Ensemble. Voilà, Vivre Ensemble, et c'était un album de Petsy, donc le petit ourson là, qui mange des grèpes à la fin. Il avait escamoté tous les personnages sauf le pélican, et le pélican fait l'histoire tout seul. Et ça s'appelle Vivre Ensemble, mais il a l'air désespérément seul et complètement schizophrène.
Alors que le thème du livre, c'est sur la solidarité. Voilà, et donc il y a un vrai paradoxe dans ce livre.
Ok, citons le Tintin au Congo tout nu.
Magnifique, qui est magnifique détournement. Qu'on voudrait bien rééditer dans Dust, cette nouvelle structure qu'on est en train de mettre en place avec Ilan.
William, tu as...
Alors je vais parler d'une nouveauté, de deux nouveautés qui sort en janvier. Il y a Le rêve de Monsieur Espoir de Tommy Moustouri, qui est en fait le troisième tome de tout un cycle de livres autour du même personnage de Monsieur Espoir. C'est un auteur finlandais absolument important, qui a la particularité d'avoir des styles extrêmement différents, qui vont ici, pour ce qui est du cycle de Monsieur Espoir, de quelque chose qui se rapproche plutôt de la ligne claire, alors que par ailleurs, il a une production qui a l'air beaucoup plus underground, parfois beaucoup plus picturale, enfin, c'est très très éclaté. Tommy Moustouri est lui-même éditeur en Finlande, un éditeur très important, qui publie notamment des traductions des ouvrages de l'association et d'autres ouvrages importants de ce côté-ci. Et je ne vais peut-être pas parler forcément du livre lui-même, parce que c'est vrai qu'il a une vraie force poétique, qui a un univers vraiment très typique finlandais, à tel point que la traductrice s'y est reprise à deux fois. Elle avait fait une première traduction, et puis après, donc Tommy, à partir de cette traduction, il avait commencé à lettrer pour la version française, parce qu'il lettre à la main ses livres, y compris les traductions qu'il fait du français vers le finlandais. Et il avait commencé à lettrer, et la traductrice a relu le livre et elle a dit: écoute, je voudrais vraiment essayer de rendre encore davantage la poésie en français depuis le finlandais. Et donc voilà, il y a eu une seconde traduction. On a vraiment un univers extrêmement singulier, enfin plein de références. Mais je ne vais pas parler d'une obsession de Tommy, et qui exprime en même temps une des particularités qu'on a ici à la cinquième couche, c'est l'aspect technique. C'est que Tommy fait, dans les trois tomes de Monsieur Espoir qui sont parus jusqu'à présent, une bichromie où il essaye, à partir de deux simples couleurs, et chaque fois différentes à chaque tome, de tirer le maximum en termes d'éventail de couleurs. De ces deux couleurs. On a l'impression parfois, en feuilletant ces livres, qu'on a affaire à de la quadricomie, alors qu'il n'y a jamais que deux couleurs qui sont mises ensemble. Et il est extrêmement exigeant, et donc ça fait l'objet de tas d'échanges de mails, notamment au niveau de la définition, par exemple, des fichiers qu'on doit donner à l'imprimeur, et que l'imprimeur, quand il fait ses plaques, doit vraiment essayer de s'y tenir. Et notre démarche aussi, c'est de pouvoir être là en imprimerie avec notre nuancier Pantone pour essayer de faire en sorte d'être vraiment dans les exigences de l'auteur. Et c'est pareil pour un tas de livres qu'on a pu faire jusqu'à présent. Par exemple, ici, j'ai amené un livre de Benoît Presseil qui est aussi en bichromie. Alors à l'intérieur, la bichromie est extrêmement simple, puisqu'on n'a jamais affaire qu'à de l'orange et de noir. Mais par contre, pour la couverture, il arrivait avec une trichromie,
Et donc, là, il fallait aussi être assez...
Comme ça, c'est l'histoire belge, la trichromie, c'est noir, jaune, rouge.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça s'appelle l'histoire belge, le livre de Benoît. C'est un français, mais il fait une espèce de formidable épopée autour de la culture belge. Et donc, ça fait partie de cette démarche. Alors, moi, je ne suis pas forcément partisan... du livre-objet. Tout à l'heure, on parlait de ce magnifique objet que Actes Sud, l'an 2, ont sorti pour la première édition de Brechteven, les amateurs. C'est seulement Actes Sud, pardon. Okay. Oui, c'est ça. Et l'an 2, c'est une collection d'Actes Sud.
C'est de Vlaams Fonds voor Literatuur.
Et vous avez dit, il y aura une deuxième édition, probablement brochée, beaucoup plus simple. Moi, en fait, franchement, je pense qu'en tant que lecteur, j'achèterai la version brochée, simplement parce qu'elle sera moins chère. Et nous, justement, c'est vrai qu'on a fait des livres parfois un peu plus sophistiqués. Si on pense, par exemple, au Frédéric Poincelet, qui s'appelle, un livre qui s'appelle Poésie, où on a commencé à faire une couverture cartonnée avec...
Embossée.
Alors, ça s'appelle embossée, mais en fait...
Défoncée, je crois. Refoulée.
Refoulage, ça s'appelle un refoulage. C'est formidable par rapport à la thématique du livre. Avec une couverture en tissu et tout. Enfin, je pense qu'on... Bon, là, c'est vrai qu'on a fait quelques livres qu'on pourrait qualifier de livres-objets, mais c'est pas forcément, en tout cas moi, à titre personnel, en tant que lecteur, c'est pas forcément ce que je recherche, parce que je pense qu'il y a des livres qui sont d'une simplicité au niveau de la fabrication, mais qui rendent quand même justice, en tout cas en termes d'impression, aux images, aux propos.
Les amateurs de Brechteven, je trouve en le feuilletant qu'ils sont vachement bons.
D'accord. Voilà. Et donc, ça nous est arrivé... Il y a des livres, par exemple, bon, je vais prendre cet exemple-là parce que voilà, c'est bon, je le connais bien puisque c'est moi qui l'ai fait. À un moment donné, il y a un cahier couleur, un cahier.
Ce livre-là, c'est Les Songes.
Voilà, ou un livre que Ilan, encore une fois lui,
et Damien Rocourt,
coordonné avec le graphiste Damien Rocourt, auteur par ailleurs de bande dessinée, où il y a toutes des parties qui sont dépliables avec.
Tu dois parler dans le micro, William, sinon les gens t'entendent pas.
Des espèces de volets à l'intérieur du livre qui correspondent totalement aux propos, puisqu'il s'agissait d'un bouquin qui parlait de paysages, donc il fallait pouvoir les déployer à certains moments. Donc, on est plus dans la recherche de livres qui sont pas forcément clinquants en termes de livres-objets, comme pourrait l'être le livre d'Actes Sud avec Brechteven, qui est effectivement jaquette, poster, qu'on peut déployer, tout ça, et livres cartonnés, mais quelque chose qui soit quand même plus en phase avec les intentions de l'auteur.
En fait, chaque livre est conçu comme ça. En fait, systématiquement, on va considérer le maquettage d'un livre, sa production, en fonction de ce qu'il contient, en fonction du propos, et essayer de trouver la forme la plus adéquate. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups, et ça ne veut pas dire que quelquefois, la forme qui convient le mieux, ce n'est pas une forme neutre. Je veux dire, si l'on prend effectivement les songes... Il y a un travail sur une alternance de quadrichromie et de noir et blanc. Mais par ailleurs, la maquette générale du livre correspond à une de nos collections, plus ou moins.
Oui, William. Non, c'est juste, parce que tu disais que tu voulais parler d'un autre bouquin encore qui sortira en janvier. Et donc,
je voulais parler d'un autre bouquin qui a peut-être quelque chose à rapport avec, pour revenir à des considérations plus générales sur la cinquième couche, c'est la revue Solde, donc qui paraît en même temps que le livre Tommy Moustoury, Le rêve de Monsieur Espoir, parce que je pense qu'il y a quelque chose de symptomatique chez Solde, c'est que donc, c'est une revue... où il est question de bande dessinée, de reportage, de philosophie, de littérature, de sujets de société. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui reflète le catalogue un peu de la cinquième couche, où on va trouver une collection littéraire, comme la collection Écriture, même s'il y a quelque chose de très graphique à l'intérieur de cette collection, mais où on cause quand même principalement de littérature. On va trouver des livres de graphisme comme le livre de Teresa Zralevich, où on va trouver des choses qui sont vraiment aux limites de la bande dessinée, qui sont peut-être plus proches de l'illustration. Et justement, cette revue Solde, qui sera la deuxième, puisqu'on a publié une première salve en 2010, un premier numéro en 2010. Donc là, on va avoir le deuxième almanach. Normalement, un almanach, c'est annuel, mais là, on publie deux ans après, en janvier 2012. où on va avoir toute cette série de toutes ces catégories explosées de registres qui se retrouvent dans le catalogue de la cinquième couche. On aura par exemple une bande dessinée d'Olivier Schroen, qui est un auteur de l'an 2, l'acte sud de l'an 2, là cette fois-ci l'an 2.
Un des grands flamands du moment.
Un des grands flamands actuels. Et donc toute une série d'auteurs. Et donc je pense que ce type de revue est quand même assez symptomatique de notre démarche.
Je pense pas qu'il faille parler pour autant de transversalité. C'est que ça reste toujours de coup de cœur. Et simplement, effectivement, quand on me demande « Mais ça édite quoi la cinquième couche ?» Je dis essentiellement de la bande dessinée. « Ah oui, mais alors quoi ? Quel genre de bande dessinée ?» Et je dis « En gros, en fait, on édite de la bande dessinée considérée comme un genre contemporain ou un art contemporain. Parfois, c'est des livres conceptuels. Et parfois, ça touche au graphisme ou à la littérature. » Mais effectivement, ça ne nous intéresse pas tellement d'absolument croiser les arts. Ce n'est pas ça le but. On ne fait pas des livres de cinéma, on ne fait pas des livres de poésie pour dire qu'on est en train de mélanger les arts entre eux. Et c'est vraiment nos préoccupations. C'est cela. C'est l'articulation du texte et de l'image. C'est une espèce d'arthrologie, pour reprendre le terme de Thierry Grunstein, qui va nous faire glisser assez spontanément vers des genres plus littéraires d'un côté, vers des genres plus conceptuels de l'autre.
Et pour rebondir là-dessus, je voudrais quand même dire que peut-être que de l'extérieur, en voyant le catalogue, on aurait l'impression que justement aussi on est tourné extrêmement vers les arts plastiques, des choses qui sont du côté de l'image et tout ça, alors que je pense que la narration est extrêmement importante. Et c'est très marrant parce que en 2006, on a publié une espèce de livre manifeste comme ça que Xavier a coordonné, qui était le coup de grâce et qui était une espèce de manifeste pour la narration. Alors, L apostrophe à narration en un seul mot, une espèce de coup de pied dans justement ce qu'on pourrait appeler la narration traditionnelle. Alors on pourrait dire justement en fait.
Dans l'identification, en fait, on avait fait le constat avec Ilan qu'on était enseveli sous des récits d'identification, c'est-à-dire des conflits qu'un héros allait résoudre dans une quête et qu'on allait parvenir à la fin systématiquement à la résolution. Et on se rendait bien compte que c'était ce genre-là qui était privilégié partout, y compris dans le fait divers ou la publicité ou le journal d'information. Et la bande dessinée n'y échappait pas non plus que le cinéma ou la littérature, et il s'agissait d'imaginer d'autres formes de récits que des récits d'identification.
Et du coup, peut-être qu'avec cette espèce de livre manifeste, on aurait l'impression que, en fait, la cinquième couche tournait le dos radicalement à la narration, alors qu'en fait, quelque part, c'était une façon de dire que c'est ce qui nous intéresse assez en première ligne, c'est-à-dire que la déconstruction de la narration, pour nous, fait partie justement de l'intérêt de la narration, dans toutes les alternatives qui sont proposées. En fait, ce livre, Le coup de grâce, est un catalogue de propositions alternatives à la narration.
Pour la renouveler, hein. Il s'agit bien de la renouveler. Donc la raviver, en somme.
Et donc, différentes propositions qui sont plus parfois tournées vers les arts plastiques, parfois dans la déconstruction chronologique, dans l'abstraction, dans le documentaire aussi, parce que ça c'est aussi une piste que la narration
qui est devenue entre temps un lieu commun.
Entre temps, oui, ouais. On a vu aussi la bande dessinée documentaire naître. Donc la déconstruction fait que pour nous c'est aussi un intérêt véritable que la cinquième couche accorde à la narration.
Mais tout le départ du livre, c'était « on s'ennuie et on suffoque ». Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter de s'ennuyer et de suffoquer ?
Et tu parlais de la BD reportage, mais ce n'est pas une BD reportage, mais par exemple, la cinquième couche a aussi fait La Tentation, qui, là, est aussi, on va dire, un grand écart par rapport à votre catalogue, on pourrait l'envisager comme ça, mais qui, d'un coup, narrativement, se retrouve dans quelque chose de très différent, avec, et graphiquement et narrativement, dans quelque chose de a priori plus classique pour qui peut toucher, je pense qu'il a dû toucher un lectorat plus
oui, large, puisque vrai, ça a été Jules Ferret, c'était le best-seller,
c'était et qui là raconte effectivement ce voyage et cette rencontre avec l'islam et la tentation entre guillemets de la conversion qui est de Renaud Denk et qui est vraiment très très réussi aussi. Et je vais juste faire un coup de cœur, j'avais adoré Sur les pas de Samuel,
Dans les pas de Samuel, oui.
Dans les pas de Samuel.
Sur les pas.
Et donc, c'est du même auteur, du même auteur, qui est encore super, dans un autre graphisme que
très woodringien, comme ça. Enfin,
oui, complètement. C'est woodringien qui est chef-d'œuvre,
ouais, qui est magnifique.
Très psychédélique, oui, très.
Et là, on va devoir s'arrêter. En effet, on aurait pu causer encore très très longtemps. On va s'arrêter là. On va juste
clôturer, en
disant simplement qu'il faut que tout simplement les gens se ruent sur les bouquins de la cinquième couche.
Les commandes, les demandes à leur libraire.
Les découvrent aussi singuliers, forts et intenses que vous nous les décrivez, que vous nous les avez décrits ce soir. Donc voilà, merci d'être venu.
5c.be.
Merci à vous.
William, Xavier et Joe.
Merci.
Et puis on va se quitter donc avec un morceau de musique que nous a amené Xavier.
Non, c'est Joe et moi. Et non, c'est un morceau que nous dédions spécialement à William. Parce que William a parfois beaucoup de charges sur ses frêles épaules. Puisqu'il s'occupe, outre de la cinquième couche, d'un atelier de production de films d'animation et de création et de réalisation qui s'appelle Zorobabel et l'atelier collectif et de la comptabilité de tout ça. Et puis, quelquefois, il y a des enfoirés qui oublient d'envoyer un communiqué de presse ou de renouveler le site ou même de livrer une nouveauté au diffuseur, ce genre de choses. Mmh. C'est très difficile. Donc ça, c'est spécial dédicace to William N, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup ce morceau, qu'il l'aime depuis toujours.
Très bien. Alors nous, on se retrouve donc le 22 décembre avec les personnes qui sont derrière le fanzine
NAS. L'édition NA, oui.
L'édition NA, si ça se confirme.
Oui.
Et ça se confirme, le 21, voilà, merci chers amis. Le 21 décembre, pardon. Et puis voilà, on écoute cette spéciale dédicace à William. Bonne soirée à tous, à bientôt.
J'ai le chocolat. J'ai tout fumé les Kraven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca.